Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Donner de la mémoire à l'éphémère, c'est l'une des raisons d'être de l'art culinaire. Et dans cet exercice-là, je reçois aujourd'hui un maître, Thierry Marx, chef doublement étoilé au Michelin, qui officie au Mandarin Oriental à Paris, mais aussi cuisinier de l'espace pendant la mission de Thomas Pesquet dans l'ISS, entrepreneur engagé avec ses écoles de formation cuisine mode d'emploi et chercheur à ses heures branché sur le futur dans les laboratoires du Centre français d'innovation culinaire qu'il a cofondé à l'Université de Paris-Saclay. Alors vous l'avez compris, le voyage s'annonce intense et vraiment passionnant. Et je suis ravie de vous accueillir, cher Thierry.
Merci, je suis très heureux d'être avec vous. Là. C'est formidable. Merci.
Alors Thierry Marx, on vous a déjà vu collaborer de façon inattendue et toujours légitime à des projets parfois révolutionnaires. Mais alors cette fois-ci, vous faites encore plus fort puisque vous mariez deux univers dont jamais on aurait pensé qu'ils puissent fonctionner sur les mêmes principes. La gastronomie et la cosmétique. En effet, le géant mondial de la cosmétique, Shiseido, est venu dans vos cuisines s'inspirer de vos méthodes de récupération des eaux d'évaporation lors de la cuisson des légumes et des fruits, vous allez nous raconter tout ça précisément, pour fabriquer donc des crèmes de beauté, comme en fait vous élaborez vos recettes. C'est-à-dire de la manière la plus vertueuse qui soit, au plus près des produits naturels, presque sans déchets. Donc voilà, avant on disait de la ferme à l'assiette, maintenant on va dire de la ferme au pot de crème de beauté.
C'est complètement ça, c'est-à-dire que de regarder un petit peu ces deux univers, hein, c'est la cuisine, la gastronomie et puis le monde de la cosmétique. Finalement, on s'est aperçu que finalement les chemins étaient identiques. Sourcing des produits, produits de qualité, dans des circuits courts, et on pouvait parler de la terre à l'assiette, mais on pouvait aussi parler de la terre à la peau, qui est une autre façon de se nourrir, de nourrir son corps. Et la cuisine, depuis l'Antiquité grecque, c'est plaisir, bien-être, santé. Donc c'était normal, à mon avis, que ces deux univers se rencontrent.
Alors, avec les techniques que vous avez mises au point, donc dans le centre d'innovation culinaire que vous avez cofondé à Saclay avec un chercheur réputé pour ses travaux sur la cuisine moléculaire, un physico-chimiste, eh bien, les déchets de fruits et légumes qui servent à l'élaboration d'une recette sont donc désormais, avec vous, transformés en un produit utile et naturel. Par exemple, mais il y a tellement d'exemples, les tomates, les oranges. Quand vous utilisez une orange dans vos cuisines, vous utilisez avec vos méthodes 98% du fruit, c'est ça ?
Bien oui, parce qu'il faut se débarrasser d'une chose, c'est seulement d'un mot, c'est déchets. Il faut parler de coproduits. Il n'y a pas de raison, la nature ne nous fournit pas des déchets, elle nous fournit des coproduits. Quand j'enlève la peau d'une orange, la partie très orange et la partie très blanche à l'intérieur, il y a un coproduit extrêmement intéressant. Un, il y a l'arôme premier de l'orange, cette senteur très agréable que nous avons qui explose un petit peu quand on tord un petit peu la peau. C'est vraiment un arôme premier. Et ensuite, il y a toute cette partie blanche qui est une pectine naturelle et qui est un gélifiant naturel. Donc, c'est normal de le récupérer.
Qui est chargé d'antioxydants en plus.
Qui est chargé d'antioxydants, qui est chargé de vitamine C et qui fait partie intégrante de ce fruit. Donc, si on veut arrêter de parler de gaspillage, il faut arrêter de parler de déchets, mais de dire la nature fournit des ingrédients, mais elle fournit aussi des coproduits de ces ingrédients et on peut en faire et leur donner une autre inspiration que celle uniquement de l'assiette.
Donc, Shiseido et vous, Thierry Marx, eh bien, vous étiez fait pour vous entendre puisque, en fait, vous vous rejoignez sur l'esprit du, alors, je ne sais pas si je le dis bien, hein, c'est japonais comme terme, motenei. C'est-à-dire ce terme japonais qui signifie gaspillage regrettable. C'est ça la signification ?
Exactement. Montenay, c'est ça.
Ah,
c'est
vous le dites beaucoup mieux que moi. Montenay.
C'est vraiment le gaspillage regrettable. C'est-à-dire que c'est vraiment inspiré aussi du shintoïsme. C'est-à-dire que la nature ne nous fournit pas des choses pour les dégrader, pour les abîmer, pour gêner la nature. Et dans ce mot-là, Montenay, il y a aussi l'idée de l'impact social, mais aussi de l'impact environnemental des choses. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'humains sur cette planète de considérer cela.
Alors, Shiseido rêvait donc de cosmétiques écologiques pour sa nouvelle gamme baptisée Uasso, élaborée avec des ingrédients naturels du terroir japonais, comme par exemple les citrons verts d'Okinawa, les yuzu de Kochi, le riz de Niigata, et puis les pommes fameuses d'Aomori. Voilà, je ne les ai pas encore goûtées, mais on dit qu'elles sont excellentes. Seulement, il leur fallait un magicien comme vous, Thierry Marx, pour écrire la partition et puis récupérer les propriétés des produit jusque dans l'évaporation des eaux de cuisson. J'aimerais bien d'abord savoir si vous avez testé les crèmes de leur gamme Moisseau. Vous les avez essayées
ou
pas?
Oui, non, bien sûr, toutes. Hein,
vraiment, oui, toutes.
J'ai découvert aussi les petits producteurs qui nous fournissent ça dans une agriculture extrêmement responsable. Et puis, évidemment, j'ai testé les crèmes, les textures, parce que, comme la cuisine, la cosmétique a besoin de ce jeu de texture et de température. Donc, il faut de l'efficacité par la texture, de l'efficacité par l'exfoliant aussi, quand on cherche par moment dans une crème. Donc, nous, en cuisine, l'émotion culinaire vient aussi de ces jeux de texture et de température. Donc, il y avait du travail croisé. Pourquoi on l'a fait au Centre français d'innovation culinaire à Orsay avec Raphaël Aumont? Parce que, dans ce laboratoire de recherche et développement, oui. On est...
Que vous avez créé avec lui
en 2013. Et pourquoi on l'a créé? C'est-à-dire que c'est pour s'émanciper aussi uniquement du monde de la cuisine et de se dire, ben voilà, on va faire de la recherche et du développement. Notre métier, c'est plutôt la gastronomie et de projeter la gastronomie de demain. Mais effectivement, tout ce qui peut considérer la planète, l'impact environnemental, l'impact social, eh bien, on va le travailler. Et dans ce lieu, finalement, dans ce cerveau collectif où on va travailler sur le biomimétisme, sur la physico-chimie des produits, eh bien, Raphaël, par exemple, m'explique que des évaporations maîtrisées nous permettent de récupérer des arômes de tête, comme on fait en parfumerie,
oui. Mais
avec des produits oui, bien sourcés.
Oui, exactement, bien sûr.
Que cette infusion, on peut s'inspirer aussi de nos aînés. Quand je parle du traité de l'école de Salerne, c'est très intéressant.
Déjà, au XVIe siècle, XVIIe
15e, ouais. Et là, on a un traité sur la cuisine au service de la beauté des femmes. C'était le titre de ce livre en latin. Et je trouvais intéressant de croiser tous ces savoir-faire et puis de les projeter vers le futur.
J'aimerais savoir, qu'est-ce que le chiculim qu'on trouve dans les crèmes justement de cette gamme vertueuse de Shiseido dont vous avez mis au point les techniques de
récupération. Oui, alors là, il y a des choses, j'en parle pas trop parce que c'est sous brevet, mais il y a des techniques à base d'algues marines, bien sûr. Il y a des techniques qui nous permettent de texturer de façon naturelle. On a évoqué cela avec, par exemple, les pectines de fruits qui réagissent avec du calcium. Par exemple, le jus d'huître fait réagir une pectine de fruits parce que c'est riche en calcium, le jus d'huître, et en même temps fait réagir une pectine de fruits qui est très riche en vitamine C, qui est très riche aussi, par moments, en antioxydants. Donc, tous ces bienfaits, eh bien, on peut se les approprier pour aller vers le monde de la gastronomie et de la cuisine, mais aussi aller vers le monde de la cosmétique.
Alors, Thierry Marx, effectivement, avec votre ami chercheur Raphaël Aumont, vous êtes vraiment dans ce laboratoire focalisé sur l'alimentation du futur, la façon dont on va parvenir à nourrir les 10 milliards de terriens en 2050. Il est donc fondamental, votre engagement. Mais en 2050, je trouve qu'on parle beaucoup de... En fait, ce stress hydrique qu'on aura à combattre, stress hydrique, c'est-à-dire la rareté, la pénurie d'eau, qui sera vraiment l'une des plus grandes menaces de la vie sur Terre. Donc, est-ce qu'on peut dire que toutes les techniques que vous êtes en train de mettre au point dans les laboratoires de l'Université de Paris-Saclay pourraient, si elles étaient récupérées bien au-delà de nos frontières, apporter des solutions réellement efficace face aux grandes questions de la nutrition dans 30, 40, 50 ans.
Bien sûr, elle le prouve déjà, des circuits courts pour réalimenter en eau des plantes dans un milieu fermé outdoor, où on peut travailler effectivement sur des eaux, l'eau végétale récupérée. Par exemple, quand on a travaillé là-dessus au CEFI, qu'on a pris une tomate, moi je ramène une tomate, vous savez que les cours de la tomate, quand ils s'écroulent, il y a énormément de tomates qui sont gaspillées, donc on les brade.
Qui sont jetées.
Et oui, on les brade, c'est jeté, ça risque d'être perdu. C'est quand même un organisme vivant, une tomate. Donc on ramène ça à l'université, on nous demande de faire une nouvelle sauce tomate, mais on se dit, mais attendez, mais pourquoi faire? Il y a déjà des centaines de sauces tomates. Donc il y a un étudiant, et Raphaël dit, mais une tomate c'est 90% d'eau. Si on centrifuge cette tomate, qu'est-ce qu'on récupère? Ah, 90%
d'eau. De l'eau avec des vitamines.
De l'eau avec des antioxydants.
Voilà.
Et puis du lycopène, de la tomate, des fibres.
Ouais.
Donc tout ça est utilisable, recyclable. Soit on recycle l'eau pour la boire et en faire une autre consommation. On peut même la désaromatiser ou la laisser aromatiser ou l'aromatiser autrement.
Ouais.
Ce lycopène est un antioxydant. On peut le récupérer dans un produit pharmaceutique beaucoup plus naturel ou simplement le réutiliser dans la cuisine comme un colorant naturel. Et puis ces fibres, on sait en faire autre chose.
Et surtout avec 30 tonnes de tomates, paraît-il, bah, on récupère 25 tonnes
oui,
d'eau.
Oui, c'était la mauvaise surprise du truc, parce que quand on l'a fait, on a récupéré des jerrycans et des jerrycans dont on ne savait plus quoi faire à Paris-Saclay. Donc, alors, si vous voulez des jerrycans d'eau de tomates, on peut vous en donner, il n'y a aucun souci, on a fait beaucoup. Parce que la magie de nos expériences à Paris-Saclay, c'est qu'au moins, on peut goûter les échantillons.
Bon, Thierry Marx, il paraît que vous investissez, en fait, chaque année 15% de votre chiffre d'affaires dans le laboratoire que vous avez donc monté au Centre français d'innovation culinaire à Saclay. Je voudrais savoir précisément sur quoi travaillent les chercheurs et les étudiants en ce moment concernant justement le fameux dossier nourrir 10 milliards de personnes en 2050. Là, il y a des éclairages particuliers,
Alors, il y a des éclairages particuliers, trois. Trois, pourquoi ? Parce que ça fait deux fois qu'on travaille... qu'on a le bonheur de travailler à Paris-Saclay pour Thomas Pesquet.
Ouais.
Et on s'est dit, c'est quoi le problème de Thomas Pesquet dans l'espace ? C'est quelqu'un qui doit bien manger pour être en condition physique, parce que c'est un athlète de haut niveau, donc il doit être en condition physique. Petit 2, c'est quelqu'un qui va vivre dans ses déchets. Petit 3, il vit en surpopulation. Donc je vous ai donné trois indicateurs sur lesquels il faut travailler, parce que c'est ce qui nous arrive sur cette planète. Donc les déchets, il faut vraiment travailler. Donc on a tout un département qui travaille aujourd'hui sur les emballages de demain. Comment on travaille à se débarrasser des plastiques pour avoir des polymérisations qui soient intéressantes en termes d'emballage. Et puis la raréfaction de l'eau, eh bien ça c'est ce qui se passe dans la cabine, donc il faut savoir la retraiter et la récupérer. Et l'alimentation de demain doit être très équilibrée, d'une agriculture très équilibrée. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec le circuit de Pierre Veil, Bleu Blanc-Cœur, cette organisation finalement qui sait faire de la terre, du vivant, à l'assiette et d'avoir un produit qui soit dans une santé globale finalement bon pour les animaux mais aussi et bon pour la terre et bon pour les animaux et bon finalement pour l'homme qui consomme ces produits. Donc tous ces cheminements finalement c'est nos trois axes de réflexion aujourd'hui et de recherche qui sont à Paris-Saclay. Et quand on dit 15% de mes revenus entreprises dans Paris-Saclay, c'est pas exactement vrai, c'est pour Paris-Saclay oui un petit peu, mais aussi beaucoup sur la création d'entreprises d'économie sociale, d'économie de croissance en conscience.
Mais ça on va en parler dans un instant. J'ai 1000 questions à vous poser. Les 1000 vies de Thierry Marx, chef multi-étoilé et tellement d'autres choses passionnantes aussi. Alors on fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Thierry Marx.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le chef doublement étoilé Thierry Marx est cet après-midi mon invité. Thierry Marx, pourquoi vous, ceinture noire de judo et expert en kendo, hein, l'art du sabre, pourquoi vous avez-vous choisi pour emblème la libellule ?
Alors la libellule, ça vient de très très loin, c'est Tomo, c'est comme ça qu'on l'appelle au Japon. J'avais repéré ça sur ce qu'on appelle des bogus de pratiquants de l'escrime au sabre. Et je m'interrogeais toujours pourquoi ces hauts gradés, finalement, avaient toujours une libellule, très souvent, comme image emblématique. Et puis un jour, j'ai interrogé Gilles Boeuf, qui est un monsieur que j'aime beaucoup, que je considère comme un ami. Et Gilles me dit, oui, mais une libellule, c'est formidable, ça a 350 millions d'années, cette espèce, c'est les carbonifères. C'est quelque chose qui naît d'un tétard, finalement, et qui va devenir un papillon majestueux. Et quand elle rencontre une difficulté, elle se met en état stationnaire, elle cherche un axe pour résoudre le problème, et elle va résoudre le problème. Parce que mécaniquement, elle ne peut pas reculer. Quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Donc, ça donne cette sensation de la présence et de la force de l'instant présent pour réussir dans sa vie. En même temps, j'oublie pas cette phrase non plus du Dalai Lama qui dit « N'oubliez pas qu'un moustique empêche un géant de dormir ».
Alors, Thierry Marx, vous venez de me parler du Dalai Lama, alors je pourrais dire de culture tibétaine, vous êtes passionné, mais aussi de culture japonaise, au point d'ailleurs de parler la langue, et avoir fait une retraite spirituelle chez les moines shintoïstes du Mont Koya. Mais pourtant, vous n'êtes pas du tout japonais, vous n'êtes pas né au Japon. Vous êtes né à Ménilmontant. Elle existe toujours, la cité du 140 Ménilmontant.
Oui.
Toujours.
Non, elle existe toujours, la rue du groupe Manoukian aussi. Et moi, je me souviens de mon enfance dans cette impasse du groupe Manoukian et puis d'aller chez mes grands-parents qui étaient du 140. D'abord, on disait, on est du 20e, on est du 140.
Ouais.
Et on était très fiers de cette appartenance ouvrière, de ces quartiers ouvriers. C'est devenu beaucoup plus complexe quand il a fallu quitter cette cité ouvrière pour rejoindre mes parents qui était en grande banlieue, parce qu'il fallait loger ces Parisiens où il n'y avait pas suffisamment de superficie pour ces ouvriers, finalement, et envoyer ces ouvriers en banlieue. Et on a commencé à construire dans ces banlieues des bars, voilà. On appelait des bars de logement, au milieu de nulle part d'ailleurs. Hein. Moi, je me souviens que la cité des Beaux-Labbés et les Boulerons, on était au milieu de champs de betteraves, hein, en gros, et de la construction de l'autoroute de l'Est. Ouais.
Alors, votre grand-père était plombier, votre père travaillait dans le bâtiment. Il vient d'où ce fantasme d'être un jour pâtissier?
Il naît d'abord devant la boulangerie de M. Ganachot. Enfin, je me disais, cet homme a l'air de travailler dur, mais il travaille la nuit, donc ça lui laisse encore plus de temps pour faire plein de choses. C'était le fantasme d'un gamin de 12 ans, hein, ou de 10 ans. Et puis, je voyais ce grand four, comme ça, comme si ce grand four m'appelait. Et c'est vrai, sur les conseils de ses boulangers, il m'a dit, non, fais pas de la boulangerie, fais plutôt de la pâtisserie. Et moi, j'aimais le dessin. J'aimais dessiner, fantasmer des gâteaux et dessiner des gros gâteaux. Or, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait quand je suis arrivé en pâtisserie, mais le dessin me servait quand même à m'intégrer facilement dans... Moi qui avais une difficulté avec l'écriture du français, le fait de dessiner Merced, je retrouvais un petit peu la recette beaucoup plus facilement.
Mais, parce que je veux dérouler le fil d'une manière précise, il paraît que comme vous n'étiez pas au collège ce qu'on peut appeler un bon élève, on avait refusé votre inscription à l'école hôtelière et on vous avait orienté en mécanique générale.
Oui, bah c'était
ça a été une période d'errance, de rage, de fugue, de désespoir, vous retrouver en mécanique générale.
Tout ça, alors c'est la mauvaise soupe, ça. C'est vraiment la mauvaise soupe, parce que c'était exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi je dis école hôtelière, je pense que c'est pour contrarier la personne de l'orientation, et je l'ai pris à contre-pied, et elle a répondu, je me souviens, c'est pas pour des gens comme vous, mais je me rappelle tout. Mais c'était pas forcément méchant, avec le recul, c'est pas forcément méchant, mais ça m'a plus gêné pour mes parents que pour moi. C'était quoi des gens comme nous? Donc, vous voyez, c'était gênant. Donc, évidemment, on me dit mécanique générale, je dis non. Donc, j'y vais, je fais n'importe quoi, enfin, je traîne. Et heureusement.
Vous auriez pu devenir un caïd des terrains vagues?
Le problème, c'est que oui, il y a quand même des gens qui ont des projets pour vous dans ces quartiers qui ne sont pas les bons. Donc, heureusement, merci le judo club de Champigny et mon copain du judo club de Champigny qui va me traîner sur les tatamis et me dire. Et là, je te retrouve un cadre éducationnel, mais. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce que je découvre dans le judo? Pas une succession de coups de pied et de coups de poing. Je découvre qu'on peut faire pour apprendre. Or qu'on essayait de m'imposer autre chose, apprendre pour faire. Je n'y arrivais pas au collège. Mais le judo me fait découvrir que si je m'y implique physiquement, corps et esprit, je vais mieux comprendre. Et ça va me mettre en confiance pour l'avenir.
Alors, il y a effectivement le judo, et pas que, parce qu'il paraît qu'à cette époque, on va dire de la sortie de l'adolescence, sur un malentendu, parce que vous pensiez aller voir un film de Bruce Lee, vous êtes entré un jour, comme ça, alors vous baladiez dans Paris, dans un cinéma d'art et d'essai qui projetait une trilogie sur la vie d'un samouraï du XVIIe siècle. Ouais. Et alors là, vous avez été complètement hypnotisé, ouais. Fasciné, une sorte de révélation.
Ouais, le film de Negaki... trilogie samouraï, c'est la vie de Miyamoto Musashi, je comprends rien. Mais je vais rester 3 heures de film et je vais revoir ce film plusieurs fois et je vais fantasmer, totalement idéaliser l'idée du samouraï ultime, de celui qui n'a pas de désir mais qui saisit les opportunités, enfin toutes les voies du Bushido qu'on peut découvrir dans ce film qui est merveilleux. Et plutôt que de rêver à Bruce Lee et à Il était une fois dans l'Ouest, je vais rêver à devenir un samouraï ultime, avec tout le fantasme que ça peut représenter à 14 ans.
Vous avez ma bénédiction, Thierry Marx. Alors, l'école hôtelière n'avait pas voulu de vous. Et ben voilà, ce sont donc les compagnons du devoir qui vont vous faire passer un CAP de pâtissier chocolatier glacier. Pour ceux qui veulent être ébénistes ou tailleurs de pierre, il y a le fameux Tour de France avec, au final, la présentation de leur chef-d'œuvre. Il me semble que ça fonctionne toujours ainsi. Mais quand on a choisi d'être pâtissier, on est dans un cursus différent?
Non, pas du tout. Au contraire, d'abord, il y a une force chez les compagnons des devoirs, c'est de rassembler tout le monde. C'est-à-dire que notre vie va tourner dans l'ultime plaisir de ressembler aux aînés, de faire aussi bien que nos aînés. Donc, il y a cette idée du chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre d'aspirant, le chef-d'œuvre de compagnon, et on continue à faire son Tour de France. Et puis, il y a l'éducation. D'abord, pour la première fois de ma vie, on me dit « Attention, on est l'élite du monde ouvrier ». Pour une fois dans ma vie, on me disait que d'appartenir au monde ouvrier, on pouvait faire partie de l'élite. Mmh. C'est la seule fois dans ma vie où on me l'a dit. Et j'ai adoré ça. Mmh. Ensuite, je me souviens que sur un carnet de Tour de France, d'un livre d'un compagnon pâtissier, je lisais « Salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie ». Et donc, salaire honnête, ça veut dire « Fais bien ton travail, tu seras justement payé. Si on ne te paye pas, tu changes de boutique et tu vas ailleurs. » Parce que ça veut dire que tu ne seras pas considéré. Et c'est de faire de cette force... de l'économie de la qualité, de savoir ce que c'est que l'économie de la qualité. C'est tout ce que je vais apprendre chez les Compagnons des Devoirs et que je bénis encore aujourd'hui de m'avoir transmis ça et je les soutiens comme je peux encore aujourd'hui.
Mais alors, Thierry Marx, pourquoi après avoir obtenu donc avec les Compagnons du Devoir vos diplômes, vous êtes-vous engagé comme parachutiste dans l'infanterie de marine? Vous avez été propulsé en pleine guerre du Liban où vous êtes retrouvé casque bleu?
Non, mais c'est vraiment des périodes de transition, c'est-à-dire qu'avec quatre copains, de se dire mais pourquoi on nous ramène dans le quartier? On a tout fait pour partir de ce quartier, pourquoi on nous ramène dans ce quartier? Et à l'époque, la seule moyen, mais je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, quand on parlait de voyage, qu'est-ce que nous avaient raconté nos anciens? C'est que dans ma famille, on m'avait raconté l'Indochine, la RC4 pour mon oncle, l'Indochine, l'Algérie. Donc
y avait... vous êtes dit l'armée peut-être?
L'armée parce qu'il y avait cette idée de projection de voyage et que de toute façon, ça nous imposerait de partir et de nouveau de quitter ce quartier. Et voilà, mais après, il me manquait quand même le bagage intellectuel pour retourner faire une école de sous-officier ou une école d'officier que je n'aurais pas pu faire parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas la culture générale pour augmenter mon statut dans une institution telle que l'armée française.
Il paraît qu'après le massacre de Sabra et Shatila, vous vouliez rejoindre le général Aoun. Mais vous n'y êtes pas parvenu.
Oui, non. On avait cette idée de travailler pour les phalanges chrétiennes. Oui, parce que quand on reparle de cette époque en France, beaucoup d'intellectuels français cherchaient un moyen pour envoyer des forces de soutien à Beyrouth. Oui, bien sûr. Donc c'était une idée de l'aventure. Et puis après, je me suis quand même retrouvé un petit peu sur mes fesses. Heureusement, là aussi, une rencontre heureuse. Et je reprends mes études. Et ce qui va changer ma vie.
Oui, parce qu'il y a comme une espèce de chaînon manquant, un chapitre de votre histoire qui mérite vraiment une explication. Comment de retour du Liban, donc après avoir vécu de l'intérieur le chaos de la guerre, comment vous êtes-vous retrouvé ensuite commis, alors on parle de donc le doyen, commis chez Taïwan, commis chez Robuchon, vous aviez vécu ce que les jeunes de votre âge n'imaginent même pas, et vous vous retrouviez dans les cuisines des restaurants les plus prestigieux du monde. Comment êtes-vous entré dans ces temples?
Je m'inscris en candidat libre pour passer le brevet des collèges que je n'avais pas. Ensuite, le groupe dans lequel j'étais, on était une classe d'adultes, on nous propose de passer notre baccalauréat, donc je le passe très très vite. Et on est tous à le réussir d'ailleurs dans le même groupe. Et puis, je me retrouve, je me dis, la France n'aura jamais rien pour moi. J'étais à l'époque, je gagnais ma vie en tant que convoyeur de fonds pour une société anglaise. Donc je me dis, je quitte la France, j'ai quitté la France. Et je me retrouve par le plus grand des hasards, j'accepte un travail de boulanger-pâtissier dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Regency à Sydney, et je vais faire des pains de mie, des montagnes de pains de mie tout le temps, parce qu'on me demandait de faire ça. Et il y a un type qui me dit, si tu ne gagnes pas assez ta vie, tu n'as qu'à aller en cuisine, comme tu es français, tu vas y arriver. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais en tout cas, ça a marché. Je fais un peu la cuisine, et puis finalement, je rentre en France, et je vais passer mon CAP en candidat libre.
Oui.
Et je l'obtiens. Mais la bienveillance des deux chefs qui étaient là, dans cette école Béliard, ils me disent, mais tu sais, ce qui compte, ce n'est pas tant le diplôme, c'est avec qui tu as travaillé. Et donc, je vais chercher des chefs qui vont accepter de m'embaucher. Et évidemment, je me dis, à Paris, j'ai aucune chance parce qu'il y a tellement de demandes, donc je vais aller en province. Et je rencontre le chef Bernard Loiseau.
Oui.
Et c'est le chef Bernard qui m'invite à déjeuner. Qui me dit, écoute, non, ton CV, ça ne colle pas, mais je t'invite à déjeuner. Je dis, je n'ai pas les moyens. Il me dit, mais je t'invite. Et je me rappelle du menu total. Et je me rappelle de qui était Bernard Loiseau. Et il me raconte son aventure, son apprentissage, comment il devient chef et chef d'entreprise. Je me dis, si je dois faire ce métier, c'est comme ça. Ensuite, je rentre à Paris, j'arrive dans un restaurant, on me dit, non, vous n'avez pas le bon CV, au revoir. Et puis je vais chez Taïwan, je me présente et je rencontre Claude Deligne, grand monsieur de la cuisine française. Et je dis au chef Claude, vous ne cherchez pas un commis? Il me dit, si, il y en a un qui part ce soir, mais t'arrives d'où? J'ai dit, chez Bernard Loiseau.
Un pieux mensonge qui n'en était pas
et
vraiment.
Je ne sais pas s'il a détourné le regard ou s'il m'a accepté dans son équipe parce que c'était l'opportunité du moment.
Ouais.
Je me suis battu bec et ongles pour essayer de tenir mon poste avec beaucoup de médiocrité, mais il m'a beaucoup aidé, beaucoup, beaucoup aidé. Et après, il m'a dit, écoute, t'es trop vieux, donc si tu veux, mets-moi 5 noms sur un papier, je te fais travailler là où tu veux. Et c'est comme ça qu'il a fait mon chemin de démarrage, mon ramp-up, comme diraient les Anglais, pour arriver à m'extraire un petit peu dans ce métier.
C'est magique. On retrouve tout de suite Thierry Marx.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Mais qu'est-ce qui fait courir Thierry Marx? Chef doublement étoilé dont le talent, le charisme et l'engagement fascinent tout autour de la planète. Thierry Marx est mon invité. Alors, je dois vous avouer une chose. Franchement, il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous êtes l'un des chefs les plus prestigieux au monde. Officier à Paris, au Mandarin Oriental, avec le restaurant Sur Mesure by Thierry Marx, qui a 2 étoiles au Michelin, 5 tocs au Gohemio, avec la note de 19 sur 20. Et vous régnez en tandem avec le chef Frédéric Anton sur le restaurant Le Jules Verne à la Tour Eiffel. Or, on peut lire sur Google une phrase que je ne comprends pas. Sur Google est écrit « Espoir pour une 3e étoile depuis 2004 ». Ça signifie quoi? Ça vous fait rire?
Non. Mais
espoir pour une 3e étoile.
Mais c'était en... Oui, c'était, il y avait une cotation comme ça à une époque au Guide Michelin, espoir 2, espoir 3. Ben voilà, c'est toujours un espoir. Alors l'espoir, c'est la vie aussi. Hein, donc c'est de regarder devant soi et d'avancer, de continuer à prétendre que oui, c'est une bonne idée, 3 étoiles. Et que j'y travaille. Mais le problème, c'est comment... C'était compliqué aussi pour un guide de dire qu'est-ce que c'est que ce type qui, à un moment donné, va travailler pour un laboratoire de recherche,
oui, c'est ça.
Du social...
Mais bien sûr, vous, c'est-à-dire que vous êtes tellement multitalent et vous avez tant de vie en parallèle...
C'est même pas tant multitalent, c'est...
Ça intrigue et ça peut agacer. Oui, c'est ça.
Sur quelle étagère on le range. Et puis, c'est comme ça, c'est une des particularités de notre pays de dire il est qui? Il est fils d'eux, élève de qui? Où il est fils d'eux, où il est élève de qui? Mais moi, ce n'était pas mon mode de fonctionnement. Donc, c'était très compliqué de rentrer presque dans ce métier par effraction.
Vous êtes trop de personnages à la fois, cher Thierry Marx. Pour faire tourner un restaurant 3 étoiles, il paraît qu'il faut à chaque service bien plus d'employés que de clients. C'est vrai, ça?
Je ne crois pas. Moi, j'ai toujours eu des modes de gestion qui étaient des modes de gestion adaptés. Quand vous travaillez dans l'économie de la qualité, donc c'est l'économie du luxe, il est évident qu'il faut une équipe dédiée à cela, que ça se mesure, comptablement ça se mesure, et qu'à un moment donné, l'entreprise reste une entreprise, elle travaille dans un secteur d'activité qui est le luxe, et il faut avoir les bons équilibres, donc les bons ratios. Si vous n'avez pas les bons ratios, évidemment, ça risque d'être empirique.
Bon, on l'a compris, Thierry Marx, vous préférez en réalité multiplier les projets et les expériences telles que, alors, vos centres de formation cuisine et mode d'emploi qui insèrent gratuitement des jeunes dans les métiers de la restauration, votre laboratoire culinaire à l'université de Paris-Saclay ou encore le fait d'élaborer des repas pour les astronautes dans l'ISS. Alors, justement, on va parler de l'expérience avec Thomas Pesquet qui a passé 6 mois dans l'espace. Il paraît que la pesanteur dans une navette spatiale provoque la perte du goût, ce qu'on appelle l'aguesie. Alors, en plus du cahier des charges phénoménalement strict de l'Agence spatiale européenne, c'est-à-dire, par exemple, règles sanitaires assurant 0 microbe, bien sûr, 0 miette, parce qu'une miette pourrait aller se glisser dans les instruments de pilotage, les instruments de bord. Ben, j'aimerais savoir comment on dose des recettes qui ne correspondent pas au goût que l'on peut ressentir sur Terre.
Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est tout le travail de Raphaël Aumont et de ses équipes. C'est-à-dire, moi, je suis comme Thomas, je suis un rêveur. Quand Thomas nous dit « je veux un pain d'épices aux pommes rôties », moi, je fais la recette.
Parce que c'est lui qui vous dit au départ
oui, «
je veux un
sûr,
pain d'épices aux pommes rôties ».
On a une forme de cahier des charges comme ça. Et c'est même pas un cahier des charges, c'est une demande. Et un gâteau aux pommes rôties, un pain d'épices aux pommes rôties, un bœuf de Bazas au vin rouge, etc. etc. Et après... il faut mesurer les contraintes. Alors, pas d'alcool, comme on fait avec le vin. Et là, c'est le physico-chimiste qui va me permettre de dire, ça, on peut le faire. Ça va être compliqué, mais on peut le faire. Et puis, de dire aussi, d'accepter le cahier des charges très précis que nous avons de l'ESA. C'est-à-dire, pas d'intrants chimiques et pas d'exhausteurs de goût qui tromperaient le cerveau du convive.
Oui, c'est-à-dire qu'on perd le goût, mais il faut pourtant aucun exhausteur de goût.
Alors, il faut aucun exhausteur de goût. On pourrait en mettre. Là, on a l'autorisation. Nous, on s'est donné comme challenge de ne pas en mettre. Et donc, il va falloir savoir piéger des saveurs pour leur donner un peu plus de relief. Je vous donne un exemple, la vanille.
Oui.
On va distiller la vanille pour en faire un arôme extrêmement précis. On va prendre une vanille de Madagascar ou une vanille de Tahiti. Une fois qu'on a distillé cette vanille, qu'on a récupéré cette molécule naturelle de la vanille, on va pouvoir l'introduire dans le gâteau sans laisser de traces qui pourraient avoir un développement bactérien qui serait nuisible à la consommation de ce gâteau. Donc vous voyez, c'est toujours ça, mais tout ce qu'on va faire comme recherche pour Thomas Pesquet, eh bien, on va le démultiplier après sur Terre, parce qu'on
bien
sait que c'est intéressant. Si on
bien
met plus d'intrants chimiques, si on met plus d'exhausteurs de goût. Et pour revenir à la gueusie, bien,
c'est-à-dire la perte du goût.
La perte de goût, bah, c'est essayer de manger le nez bouché. C'est très compliqué.
C'est comme ça que vous testiez vos recettes.
Oui, parce que nous,
vous bouchez le nez, vous disiez, alors qu'est-ce qu'il va ressentir, voilà, Thomas
avec
Pesquet.
Jean-François Clairvoy, on a pu faire le test en 0G dans l'avion en 0G.
Oui.
Mais
ah,
par
vous
moment,
êtes monté dans l'avion pour tester vos recettes.
Test,
vous avez quand même un métier très chic.
Oui, et c'est vrai, c'est vrai. Mais on a aussi fait beaucoup de tests en se pinçant le nez, en disant, mais est-ce qu'il peut manger comme ça? Et nous, on avait vécu cette expérience. Donc, ça nous a permis aussi de démultiplier. Vous voyez, on a créé, il y a quelques temps, beaucoup de projets autour de start-up sur le sans-sucre saccharose, ce qui est une demande aussi pour les plats de Thomas. Et puis, sur sans intrants chimiques, sans exhausteurs de goût.
Et il paraît que vous avez même imaginé pour Thomas Pesquet une recette de bœuf de 7 heures sauce au vin, mais en inventant un vin sans une trace d'alcool.
Alors, voilà, ça c'est le grand talent de la physico-chimie de Raphaël Aumont, c'est-à-dire qu'on a gardé le goût du vin en le débarrassant totalement de sa dose d'alcool. Par expérimentation, on a su le faire.
Vous pensez que les viticulteurs du futur, en 2050, 60, fabriqueront ainsi leur grand vin ?
Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y aura une réflexion sur la non-consommation d'alcool dans quelques années.
Ouais.
Donc, on ne se privera pas de grands cognacs, de grands armagnacs, choses comme ça, mais certaines personnes qui ne souhaitent pas consommer de l'alcool pourront peut-être fabriquer cette aromatisation qui est extrêmement agréable quand vous goûtez un grand cognac.
Ouais.
C'est très très bon. Moi qui ne bois pas d'alcool, eh bien, pour apprendre à déguster le cognac, je le dégustais sur ma main. Vous voyez, comme si je testais un parfum.
Ah.
Et
voilà. C'est-à-dire que ça passait par l'odorat avant le goût.
Exactement. Et donc, j'ai appris à déguster des vins et des alcools uniquement en l'appliquant comme ça.
Alors, vous êtes, je l'affirme, le chef officiel de l'espace, ce qui ne vous empêche pas d'être aussi incroyablement actif sur Terre. Vous avez créé en France une dizaine d'écoles permanentes sur le projet Cuisine Mode d'Emploi et une quinzaine de formations itinérantes. Et alors, j'ai appris que depuis 2012, c'est-à-dire depuis en fait, la création, la naissance de la toute première école, 92% des gens que vous avez formés ont trouvé un emploi. Et vraiment des gens de tous âges. Il y a des gens inscrits à Pôle emploi qui viennent désormais dans vos centres Cuisine Mode d'Emploi pour des formations ?
Oui, c'est vrai, parce que c'est une réponse assez immédiate. Si vous voulez, vous vous inscrivez et il y a un cycle de 11 semaines de formation, 8 semaines en situation métier à l'école et ensuite vous remontez en compétences en entreprise et en général, les personnes sont embauchées. Mais dans ce qui est dit là, c'est environ 5500 personnes formées.
Oui.
Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, ça a été 7% de création d'entreprises durables. Elles sont encore ouvertes, les entreprises. 7% de gens qui, par moments, se croyaient assignés à l'échec ou assignés à leurs conditions sociales. Et ils se sont aperçus qu'avec un projet, le fait de s'y engager, nous, on a une monnaie d'échange. Hein. On dit la formation est gratuite, mais il y a une monnaie d'échange.
Oui, c'est gratuit.
La formation est gratuite, oui, mais pas vraiment. On se dit c'est gratuit parce qu'il n'y a pas d'argent à mettre, mais il y a une monnaie d'échange qui est humaine. C'est-à-dire qu'on dit RER, rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est votre projet. Vous venez avec votre projet, nous on vous accompagne, on va dérouler de la
colle. Mais il faudra aller jusqu'au bout, il faudra tenir.
L'engagement, c'est de lâcher la main du passé et d'aller de l'avant. Régularité, on va se dire que pendant 11 semaines, il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Parce qu'on ne pourra pas donner le diplôme s'il nous manque des points. Et finalement, ce modèle pédagogique bien fait sens. Et d'ailleurs, le mari de Kamala Harris est venu dans nos écoles parce qu'on va monter
l'époux de la vice-présidente américaine.
Oui, et le mari de la numéro 2 est venu voir un petit peu ce programme pédagogique. Il dit, mais il est intégrable aux États-Unis. Comme on va ouvrir une école à Détroit. On n'a pas inventé grand-chose. Hein. C'est-à-dire qu'on a adapté la formation à quelque chose de beaucoup plus rapide et de remettre quelqu'un dans l'axe du projet.
Mais vous allez très loin, d'ailleurs, dans, on va dire, ce concept-là, puisque désormais, vous allez même dans les cités chercher des jeunes en perdition de 12, 13, 14 ans.
Ça, c'est passeport pour l'emploi, c'est dans le quartier d'été. Donc là, on va au contact, on appelle ça au pied des immeubles, et on développe le cadre éducationnel du sport. Venez comme vous êtes, en gros, et on veut faire du sport. Et on a un outil, si les gens sont d'accord, bien d'évaluation sur leur qualité, pas sur leurs défauts. Et bien souvent, les gens entre 15 ans et 18 ans sont très surpris de voir qu'ils ont un tas de capacités physiques en eux qu'ils n'ont pas mis en œuvre. Et donc là, le révélateur de ces 11 semaines de formation chez Passeport pour l'emploi leur démontre que si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu vaux, et ça fonctionne.
Alors Thierry Marx, parlons du plaisir de nos papilles à présent. Moi j'ai l'impression que depuis 20 ans, en dehors bien sûr des expériences de la cuisine moléculaire, Depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus beaucoup de créations en cuisine, en fait, de recettes inattendues qui fédèrent tout le monde, comme par exemple le fameux saumon à l'oseille des frères Troisgros dans les années 60, la salade folle au foie gras de Michel Guérard qui a fait le tour de la planète, le fondant au chocolat de Michel Bras. Alors vraiment, voilà un dessert aussi qui a fait le tour du monde. Il n'y a pas une carte de dessert sans fondant au chocolat. Et, ou alors la fameuse purée au beurre de Joël Robuchon. Comment vous expliquez ça, le fait que il n'y ait plus vraiment de recettes emblématiques depuis maintenant, allez, on va dire deux décennies.
Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de créativité. Pourquoi ? Parce qu'on n'accepte pas.
J'ai pas dit créativité.
Si, si, mais moi
j'ai
je dis créativité.
Alors, mais c'est une nuance différente. Ma question, c'était sur la création de recettes emblématiques qui font le tour du monde, comme par exemple le fameux fondant au chocolat.
C'est l'innovation.
Qu'on retrouve à Moscou ou qu'on retrouve
bien
à
sûr.
LA ou à
bien
Dubaï.
Sûr, bien sûr, mais le fait de. Quand vous parlez du gâteau au chocolat, on pourrait en citer d'autres, mais à un moment donné, si vous voulez être créatif, il faut accepter de vous tromper. Le problème, c'est que ça va tellement vite aujourd'hui que vous copiez beaucoup de recettes, vous vous les appropriez, vous retirez 30 grammes de ci, 30 grammes de ça, vous mettez... L'autre jour, on m'a servi un truc qui devait ressembler à de l'avocat. Bon, bref, je dis pourquoi pas. Mais vous dites, mais c'est quoi la modification de cette recette? C'est quoi la créativité de cette recette? Finalement, elle ressemblait vraiment à un plat d'il y a 10 ans en arrière. Donc, je me suis dit, la créativité, il faut se tromper. Donc, quand on fait ce laboratoire de recherche et développement, ça veut dire que je travaille avec des gens qui pensent différemment de moi. Moi, je suis né comme artisan avec des cahiers de recettes, mais les chercheurs avec qui je travaille, travaillent sur des cahiers d'essais. Et c'est sur nos erreurs, nos errances, même par moment, que nous allons trouver la texture de demain, l'expérience, l'émotion liée à une texture, etc.
Les erreurs, les errances. Alors, je pense
bien
à la tarte tatin.
Exactement.
Les sœurs tatin qui font tomber un gâteau qui se renverse, qui se retourne à l'envers, ou la béchamel, par exemple.
Ou le cœur coulant au chocolat qui n'était pas prévu qu'il soit un cœur coulant, etc. etc. Mais voilà, la pâte à choux, etc. Mais à un moment donné, il faut prendre le temps des essais et d'analyser ces erreurs et de trouver dans ces erreurs une potentialité de nouvelles recettes.
On retrouve tout de suite Thierry Marx.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Thierry Marx. La cuisine, c'est la maîtrise du geste et du temps. Donc il y a une corrélation avec les arts martiaux que vous pratiquez.
Oui, forcément. Mais la cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Coupe juste, goût juste. Maîtrise du feu, la cuisson, l'intensité de cuisson, si c'est trop chaud, ça brûle, ça intéresse, c'est pas assez chaud, ça ne cuira pas. Et le temps pour faire, ou le temps et le temps, la saisonnalité. Donc ces trois éléments-là qui sont extrêmement importants. Donc dans l'art martial, dans la pratique, c'est la même chose. Mais j'aurais pu prendre trois autres exemples. J'aurais pu prendre l'exemple du théâtre. La cuisine, c'est une dramaturgie.
Oui.
L'art martial est une dramaturgie, le théâtre est une dramaturgie. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Et de ces trois mouvements, il n'y en a qu'un. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans ces univers-là, que ce soit l'univers du théâtre, que ce soit l'univers de la cuisine ou l'univers de l'art martial. Il y a un moment donné, il n'y a pas de haine. Vous êtes juste là pour le geste, le feu, le temps,
geste parfait.
Sans agressivité.
Mais, dans la maîtrise absolue, est-ce qu'il reste encore de la place pour les miracles du hasard ?
Complètement. Que ce soit l'art martial, la cuisine ou le théâtre, l'improvisation est nécessaire. C'est-à-dire que c'est l'adaptabilité qui compte, tout le temps.
Vous êtes ceinture noire de judo et vous pratiquez le kendo, l'art du sabre. Le kendo est le seul art martial qui permette d'aller au bout de tous les impacts, car on le pratique avec une armure. En fait, le kendo, c'est à la fois la maîtrise et puis c'est le lâcher-prise total de l'énergie.
Oui, complètement. Parce qu'effectivement, il y a cette protection de l'armure. Et en même temps, il y a de concentrer l'effort sur un seul impact possible. Parce qu'on est dans le mimétisme de l'escrime au sabre coupant. Donc, il faut vraiment être de la pointe de l'orteil jusqu'à la racine des cheveux dans l'action, dans ce mouvement extrêmement pénétrant qui fait que la lame va couper. Et ce mimétisme de l'escrime au sabre apprend beaucoup sur la posture du corps et de l'esprit qu'on peut avoir, y compris dans la pratique du judo.
Thierry Marx, il paraît qu'un artisan faiseur de sabre très réputé dans le nord du Japon a accepté de fabriquer votre sabre d'entraînement qui est en bois plein. Mais ça doit être affreusement lourd à manier, un sabre en bois plein.
Alors, non, c'est une histoire, je ne sais pas qui vous l'a raconté, ça. Ça me gêne, vous avez des pistes hein, que je ne mets pas. Et alors, c'était pas mon. C'est un sabre de Yaito, c'est un sabre d'entraînement. Il a accepté de me le fabriquer, puis ensuite, il l'a accepté de me fabriquer un sabre, ce qu'on appelle un shinken, un sabre de coupe que j'ai mis 3 ans à attendre patiemment, que j'avais économisé beaucoup pour ce sabre, pour la pratique de la coupe au sabre, et que j'ai eu beaucoup de mal à ramener du Japon. Je l'ai ramené en toute légalité.
Alors vous dites la pratique de la coupe au sabre. Oui. Que coupe-t-on au sabre?
C'est de la paille de riz et du bambou. Mais il y a une inclinaison qui est très particulière pour vraiment...
Mais alors vous en servez pour quoi?
Pour cet entraînement-là. C'est uniquement ça.
À couper la paille de riz et le bambou
oui,
au sabre.
Oui, alors il y a... Vous savez, au Japon, souvent, enfin, ces pratiquants-là, moi j'avais lu les mémoires d'un grand sabreur qui disait « Kenzen Ichinyo, sabre et méditation ne fait qu'un. Il n'y a pas de haine. Il faut vraiment que le mouvement soit extrêmement fluide pour que la coupe et que la lame soient vraiment bien préparées. » Et bon, il y a... Voilà. Kenzen Ichinyo, on peut dire que oui, sabre et méditation ne font qu'un. Donc il faut pas mettre de... Il faut un peu de lâcher prise dans tout ça.
Vous avez... prononcer le mot méditation. Alors, ça me fait penser à cette retraite sur le mont Koya auprès des moines shintoïstes que vous avez faite. Ça a été quel genre d'expérience?
C'était étonnant. D'abord, c'est à une époque où il n'y avait pas de tourisme quasiment au mont Koya-san. Et j'arrive, et c'est très compliqué de dormir dans un temple. Je ne comprenais pas, je ne parlais pas du tout la langue à l'époque. Enfin, c'était compliqué, il n'y avait pas de conversation.
C'était
en anglais.
Il y a combien d'années?
Ça, c'est la première fois à mont Koya-san, je crois que c'est les années 88-90. Hein. Donc, il faisait très froid. J'étais arrivé par bus, c'était très compliqué. Et quand j'arrive dans une forêt comme ça, il y avait une forêt, il y avait les temples, et puis il y avait une forêt, il y avait le grand temple, le temple des Lumières. Et je marchais au travers des... Et puis le jour commençait à tomber, c'était assez impressionnant. Et quand j'arrive, je me dis, mais je ne sais pas méditer finalement, je ne sais pas comment me positionner, comment faire. Et... Le moine qui me reçoit a trouvé que je chantais un peu trop le parfum ou l'aftershave. Ou
ne me dites pas qu'il vous demande de vous déshabiller.
Non, il ne me déshabille pas, mais il me donne de l'encens pour mettre sur moi et sur mes vêtements. Et puis, au fur et à mesure des jours, je vais aller essayer de comprendre ce qu'était la méditation, le bouddhisme, le shintoïsme, découvrir la nature. Et moi, en même temps, je m'aperçois que tout est fait d'observation. Et finalement, pour apprendre quoi observe et tais-toi. Apprends et comprends. Ensuite, tu pourras innover.
Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils ne sont pas venus vers vous avec des explications. Ils ne vous ont pas entraîné dans leur prière. Ils vous ont laissé à distance les observer.
Oui, et puis fait pour apprendre, quoi. Observe et tais-toi. Apprends et comprends. Et ce monde du silence, moi, c'est quelque chose qui me ramène aussi proche des miens. On ne parlait pas beaucoup chez moi et chez mes parents, chez mes grands-parents. Il n'y avait pas place pour de grandes conversations, c'est ça. Et j'ai retrouvé ça aussi au mont Koya-san, cette espèce de silence. Pourquoi on parlerait si on n'a rien à dire, quoi, finalement, ou rien d'intéressant à dire. Et puis finalement, observe et tais-toi. C'est beau parce qu'on observait quoi? La nature. Et de prendre le temps d'observer la nature, finalement, était extrêmement fort, extrêmement grand. Et quand je suis revenu, je me sentais plus fort. Et je pense que la méditation, et notamment la méditation dans ce type de lieu, nous permet de nous renforcer en tant qu'individu. Dans une société où on fait toujours porter la responsabilité à l'autre. Vous voyez, moi je ne suis pas de la génération où on faisait porter la responsabilité à l'autre, mais aujourd'hui ce n'est pas moi, c'est l'autre, mon professeur n'est pas bon, je ne viens pas du bon quartier, si et ça. Or que moi, ma maman, elle me disait toujours, elle me disait, ton professeur n'est pas bon, mais peut-être que toi, tu n'es pas un bon élève non plus. Donc, on fait moitié-moitié. Et donc, ne cherche pas la responsabilité. J'aime pas cette stratégie du bouc émissaire. Et c'est vrai que la méditation me recentre sur moi, en tant que dire, mon garçon, prends tes responsabilités aussi. Regarde devant toi.
Alors, vous parlez japonais? Vous
savez... J'essaie, j'apprends.
Oh,
j'apprends.
Bah, attendez, vous parlez japonais.
Ma professeure de japonais trouverait ça très terrifiant que je dise que je parle japonais. Non.
Vous savez presque tout de la culture de l'Empire du Soleil Levant. Aujourd'hui, que vous manque-t-il pour être japonais? Parce que vous y allez très souvent au Japon.
Oui, ça fait 30 ans que je vais au Japon. J'y reste suffisamment longtemps. Mais je n'ai pas d'inspiration de dire... quand je suis arrivé au Japon la première fois, je me suis dit, c'est là, c'est un pays qui me convient. Voilà. J'idéalise pas, je dis, je suis un Français qui aime le Japon. J'aime le Japon pour l'homogénéité de ce peuple, pour la calligraphie, pour l'architecture, pour le shintoïsme, pour la pratique du judo et du kendo. Voilà, j'adore le Japon. Mais j'idéalise pas, je suis un Français. Et je pense qu'il y a une attraction extrêmement forte entre la culture française et la culture japonaise. D'ailleurs, ça se mesure depuis plus d'un siècle, c'est 150 ans, les accords franco-japonais. Donc, je suis là-dedans, mais je ne suis pas, et je ne serai jamais japonais, je ne suis pas né japonais. Donc, je ne suis pas dans l'idéalisation, mais c'est un pays dans lequel je me sens bien.
Alors, revenons en France, Thierry Marx. Vous avez repris avec le chef étoilé Frédéric Anton le restaurant, donc le Jules Verne, qui se trouve dans l'un des monuments les plus visités au monde, la Tour Eiffel. Ça, c'était en 2019. Et depuis, entre Paris, Miamal, avec les manifestations, les grèves, les gilets jaunes, les black blocs, et puis le tourisme planétaire complètement pulvérisé par le Covid, vous avez traversé bien des guerres totalement inattendu. Alors, comment se porte la Tour Eiffel et tous les projets que vous aviez imaginés avec Frédéric Anton autour de ce joyau ?
Moi, la Tour Eiffel, pour moi, c'est le plus beau symbole ouvrier. J'adore la Tour Eiffel. Et c'est vrai que quand Frédéric est au deuxième étage, dans le restaurant étoilé, moi, je souhaitais la brasserie. Donc, je suis dans la brasserie du premier étage que j'adore. Pour moi, c'est un monument extrêmement fort. Alors, comment elle se porte ? Elle se porte bien, elle est en pleine restauration. Voilà, ça c'est important aussi de le dire. Et elle va être magnifique pour les Jeux de Paris, pour les Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, elle se porte bien de mieux en mieux. Effectivement, le phénomène Covid qui nous avait, dans l'ensemble de la restauration, démonétisé, aujourd'hui, ça repart tout doucement. Et le premier étage est en travaux. Et Frédéric accueille déjà les clients au deuxième étage sur le restaurant étoilé.
Bon, alors,
sur son restaurant étoilé.
Nous voilà rassurés, mais bon, avec les Jeux Olympiques de 2024, la Tour Eiffel va être située au cœur d'une sorte de réacteur nucléaire. Parce que le site de la Tour Eiffel sera ouvert aux cérémonies et aux compétitions. Ça ne va pas être simple.
Je pense que ça ne va pas être simple. Mais j'attends des jeux français, les jeux de Paris comme des jeux magnifiques, parce que je pense qu'il va y avoir, il y a eu un travail. D'ailleurs, on rencontre déjà les responsables des Jeux de 2024 et on voit bien leur volonté d'aller vers un impact social de ces jeux, vers un impact environnemental de ces jeux, de donner de la raison économique aussi à ces Jeux Olympiques, de faire dans des territoires qui étaient des fois un petit peu loin de la capitale, comme la Seine-Saint-Denis, des événements extrêmement importants. Je pense que ces Jeux à Paris vont être des Jeux extraordinaires et je suis d'une fierté absolue de faire partie de Food Vision pour les Jeux Olympiques 2024.
Alors, avant de nous quitter, Thierry Marx, parce que le temps est cruel et file trop vite, j'aimerais juste savoir, lorsque vous rentrez après le dernier service chez vous, vous êtes dans votre cuisine, vous avez envie d'une petite gourmandise, une douceur qui fasse fondre de bonheur vos papilles gustatives. Qu'est-ce que vous vous préparez, comme ça, vite fait sur le pouce?
C'est très simple. Moi, je suis un fils d'ouvrier et il y a toujours à la maison une boîte de sardines, un morceau de pain qui est probablement souvent un peu rassis. Et je mets une sardine avec un peu de beurre sur un morceau de pain rassis. Notamment, c'est du pain de seigle que j'adore. Il y a toujours du chocolat noir. Donc voilà, alors après je peux aller me coucher. Mais c'est vrai que de travailler en horaire décalé, on imagine toujours que les chefs ont des frigos pleins, regorgent de produits extrêmement luxueux.
Moi, j'oublie
jamais d'où je viens. Et je me souviens de ma mère, ma grand-mère, d'ouvrir une boîte de sardines et de mettre ça sur un pain qui avait un certain petit peu rassis. Donc on toastait un petit peu s'il fallait du beurre. Et l'huile de la sardine venait finalement faire attendrir ce morceau de pain. Je trouve ça délicieux et je peux aller me coucher après.
Merci infiniment pour
ce
voyage.
Merci.
À très bientôt, Thierry Marx.